tú eres muy malo, muy, muy malo. La interpretación siempre negativa, siempre negativa.
Y digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy.
En face, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid.
Piqué, il faut qu'il aille avec Shakira, avec tout, la carrosserie, je sais pas, regardez.
Puede pasar de todo. Una bomba o dos bombas, no sé.
No, es que no te entiendas, es que hablas muy raro.
Ah.
Esa es la diferencia.
Yo creo que vocalizo muy bien, pero
sí,
bueno.
Sí, bueno, pero yo en este caso creo que no.
Bonjour a tous et bienvenue dans ce nouveau numéro très, très, très spécial de Ligue Actu, de nos podcasts. C'est donc moi, Sacha, voici Ruben Le Jefe, David pour nous parler du Real Madrid et un invité de grand prestige, même s'il nous a dit qu'on était tous des êtres humains, qu'on était tous égaux, Omar Da Fonseca. Omar, comment ça va?
Très bien, très bien. Évidemment qu'on est tous égaux et le mot prestige, j'ai du mal à comprendre parce que on est tous dans le même moment, donc essayons de partager justement ces belles aventures ensemble. En plus, qu'on a la même plus ou moins passion, donc qui est mieux que pouvoir parler et se côtoyer à travers une passion.
Exactement, exactement. Mais je vais quand même repasser un peu la parole pour ne pas couper aux traditions du podcast, bien sûr. Jefe, comment ça va?
Bah très bien, écoute, très très content d'être là pour ce nouveau numéro et puis avec David qu'on va présenter juste après, avec toi et puis évidemment avec Omar pour parler de ce beau match qui est quand même un des plus importants de la saison de Liga, les plus décisifs et puis toujours un des plus beaux à suivre aussi. Donc ouais, très content.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Ben, bon, Omar a minimisé le prestige, mais on parle quand même d'une affiche de prestige avec des clubs prestigieux.
Ah oui, ah non, le match, oui, le match.
Exactement, exactement. David, comment ça va, président de la Peña du Real Madrid à Paris?
Bah, ça va bien, ça va, en pleine forme, comme un bon mois de septembre pour le Real, donc tout va bien.
Voilà, c'est vrai que c'est un mois de septembre assez agréable ici à Barcelone. Il fait beau, on a hâte de cette sixième journée de Liga qui va nous offrir de très très belles affiches avec Real Madrid qui se rendra au Metropolitano. C'est l'objet de notre podcast. Mais je vais chambouler un peu le programme. Je vais te demander, Omar, toi qui seras bien sûr aux commentaires pour beIN Sport avec notre cher ami Benjamin Da Silva à qui on passe le bonjour, qu'est-ce qu'elle t'évoque, toi, cette rencontre? Voilà, c'est l'un des plus gros matchs en Espagne, en Europe même. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à cette affiche, au jeu qui va être proposé?
Maintenant, il ne faut plus se cacher le fait de dire que l'Atlético Madrid doit inspirer, il doit même se positionner comme parmi le favori. Moi, quand des fois j'entends soit des supporters, soit la direction ou El Cholo, qu'il se met toujours dans cette situation d'infériorité par rapport au Barça, au Real Madrid, je ne suis pas d'accord. Je trouve que l'Atlético Madrid, depuis déjà quelques années, de par plein de choses qui ont été obtenues, de par des titres, de par des performances, et on doit assister à un grand moment de football, des rivalités. Après, on parlera des visions, des styles de football, mais l'Atlético Madrid est devenu une place très forte contre une équipe de Real Madrid que, on ne sait pas, par moments, je dis, est-ce qu'ils vont marquer des buts, est-ce qu'ils auront une poids offensive comme ils l'avaient auparavant, bon, est-ce que il va continuer, Jude Bellingham va continuer avec un facteur de réussite incroyable.
C'est hyper impactant.
Oui, mais quand on voit les buts qu'il marque, c'est des buts comme ce qu'on appelle chez nous en Argentine, on dit le but à une touche, à coup de golfeur, toi, tac, de la tête, des ballons qui rebondissent, des ballons qui contre. Et c'est sûr qu'il y a un talent, parce que le ballon, on dirait que le ballon, il le choisit. Toi, il regarde où il y a les pieds de Bellingham, la tête, pour dire je vais aller chez lui, parce qu'il va bien me traiter. Donc,
c'est ça.
Voilà, plein de choses, mais c'est évident que le match est très intéressant parce que les forces sont assez équitables et parce qu'en plus maintenant le stade et plein de critères font que reste quand même un match que tout le monde regarde et qui est quand même un match voilà, pour la Liga très important.
Ouais, exactement. Je vais passer avec vous maintenant, David et Ruben, pour nous parler un peu du début de saison de ces équipes. Voilà, Omar nous a donné un petit peu son avis sur cette belle rencontre. Après, Omar, j'aurais une petite question sur le Cholo aussi qui va ravir, je pense, nos auditeurs. Mais avant, David, avec la Peña, comment ça se passe un peu pour cette rencontre? Comment est-ce qu'on vit un tel match?
Alors, Pour nous, ce n'est pas le match le plus important. On va être très honnête. Le match le plus important pour nous, c'est les matchs de la Champions League et le Classico contre le Barça. Mais ensuite, des matchs les plus importants et qui nous tiennent à cœur, c'est effectivement le derby contre l'Atlético. Ceci dit, ce n'est pas un match classique, c'est un match effectivement différent. Et surtout pour l'hégémonie de Madrid, c'est très important aussi pour nous. Il faut savoir que moi, ayant habité aussi à Madrid, pour la ville de Madrid, c'est the derby, quoi. On ne parle pas de Classico, on parle vraiment du derby de Madrid. Et là, il y a une vraie rivalité, une vraie confrontation entre deux entités, deux politiques différentes, deux aficions, j'allais dire en espagnol, donc des supporters vraiment aussi différents. Donc c'est vraiment un match extrêmement important. Nous, ici, à distance de Paris, La Peña, c'est un match, somme toute, très important, surtout par l'hégémonie. Mais alors après, le petit hic qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'on connaît finalement, ici sur Paris en tout cas, très, très peu de personnes de l'Atlético, quoi. On connaît autant beaucoup de gens du PSG, bien entendu, ou du Barça, mais d'Atlético, finalement, ben, on en connaît peu. Donc il y a un petit peu
Évidemment.
moins on va dire, de piquant et de rivalité. Et comme on disait en off avec Omar, on aime bien toujours un petit peu rigoler, chambrer, parce que le foot, finalement, c'est ça, hein, on est d'accord là-dessus. Et malheureusement, eh ben, pour ce type de derby, on ne trouve pas de gens de l'Atlético qui peuvent venir voir le match avec nous et rigoler un bon moment et se chambrer, quoi. C'est le but du football.
Ouais, tout à fait. Ben, on passera un petit message aux amis d'Atleti Francia, à Timeo et à toute son équipe, bien sûr, qui n'ont pas pu être présents pour ce podcast. Mais bon, je pense que quand ils l'écouteront, ils voudront tout faire pour être dans le prochain. En tout cas, on les embrasse, bien évidemment. Réfé, avant de repasser la parole à Omar, ben, bon, toi, on le sait, tu n'es pas un colchonero. Tu as un lien de parenté avec les colchoneros.
Un
Tu es
petit peu.
de l'Atlético, voilà. Mais comment est-ce que tu pourrais, pour vraiment rentrer un peu dans le vif du sujet, nous décrire le début de saison de la horde, de la troupe du Cholo Simeone?
Mais j'ai envie de dire que c'est un début de saison qui est à la fois intéressant et à la fois qui est décevant sur certains points. C'est-à-dire que sur ce début de saison, moi j'ai vu un peu deux équipes de Atlético. Il y a celle qu'on a vue contre Granada, contre le Rayo notamment, avec les victoires 3-1 contre Granada et puis 7-0 contre le Rayo, qui bon, là était quand même une victoire assez historique, où on voyait une équipe qui était décomplexée, qui jouait, qui savait voilà, bien exploiter ses armes. Et même face au Betis, je trouve qu'on a vu des séquences intéressantes, même si c'est vrai qu'il y a eu ce match nul 0-0, parce que le Betis c'est pas non plus une équipe facile à jouer, surtout quand on connaît le travail de Pellegrini. Et je trouve que voilà, l'Atlético, sur ses trois premiers matchs de Ligue 1 en tout cas, avait proposé un contenu qui était plutôt intéressant. Il y avait vraiment quelque chose, ouais, voilà, qui se détachait, qui se dégageait de ces équipes-là, et on voyait que c'était une en tout cas des meilleures équipes du début de saison. C'est vrai qu'on est toujours dans ce début de saison, mais il y a eu après, bon, ce match donc qui a été reporté contre le Séville, qui sera joué donc à la fin décembre. Et puis il y a eu au retour cette trêve internationale, surtout cette défaite 3-0 contre Valence, que personne n'a vraiment vu venir, mais qui au final, quand on regarde le contenu du match, et voilà, est assez révélatrice, parce qu'on a vu en tout cas beaucoup d'erreurs dans la défense des Colchoneros. On a vu beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et là, tout de suite, on a l'impression que cette équipe que les médias avaient présentée parfois comme la meilleure équipe d'Espagne du moment, ou du moins une équipe qui rivalisait avec le Real Madrid et le Barça, tout de suite, on se rend compte que finalement, elle a quand même beaucoup de lacunes, de faiblesses, et qu'il y a aussi, voilà, peut-être aussi cette façon d'aborder les matchs. J'y reviendrai dans le point suivant, qui pose souci avec le Cholo. Et c'est dommage, parce qu'au final, l'Atlético, voilà, se retrouve maintenant septième avec 7 points. Ils ont toujours un match de moins, donc évidemment, je le disais. Mais voilà, il faut quand même se rendre compte que malgré ce match de moins, ils sont quand même déjà à 8 points du Real Madrid, qui est donc leader et a pris tous les points. Ce qui, voilà, en tout cas, doit mettre pas forcément la puce à l'oreille déjà, mais enfin, montre à Atlético, toi, qu'il n'y a plus forcément de marge de manœuvre si cette équipe veut vraiment être présente au titre jusqu'au bout. Et puis, bah, du coup, pour finir un peu avec le début de saison, il y a eu cette semaine le retour de la Coupe d'Europe, match nul, assez loufoque, on va dire, contre la Lazio, avec le but de Provedel, le gardien, la 95e minute. Et voilà, un match pas forcément exceptionnel, mais en tout cas que l'Atlético avait plutôt bien géré, de ce que j'ai pu voir. Et ouais, c'est une erreur assez grande de prendre un tel but par un gardien en plus à la 95e minute.
Ouais, tout à fait. Ben, je partage un peu ton avis sur ce début de saison des Colchoneros, mais on va demander quand même à un compatriote du Cholo, de Depaul, de Molina, de nous parler vraiment de ce début de saison des Colchoneros qui pourrait être à 11 points à l'issue du derby face à l'Atlético. Omar, tu nous disais en tout début d'intervention que ça y est, l'Atlético, il fallait arrêter avec ce discours d'être vraiment en dessous du Barça et du Real. Ben, là, pour le coup, il y aurait potentiellement 11 points. Toi, comment est-ce que tu vois le début de saison de l'Atlético de Madrid et surtout, comment tu vois cette nouvelle saison du Cholo qui devrait prolonger de 2 ans selon les informations sorties en Espagne?
Plusieurs questions en une.
C'est vrai.
D'abord, par rapport à Cholo Simeone, c'est vrai que d'un côté, par rapport à ce qu'il a obtenu, par rapport à de la manière, ce qu'il a fait, lui, parce qu'il y participait énormément dans une espèce de réussite, il a positionné l'Atlético Madrid depuis quelques années dans une sphère, même à niveau international, mondial. Est très connu. Après, on pourra parler de la méthodologie, de la vision qui est quand même à mon goût et à mon état de vie d'un monsieur assez ancien et disons assez conservatrice et dans une espèce de discipline, de rigueur, d'organisation, tous ces mots-là qui ne sont pas très liés avec le jeu. Pour moi, le jeu, c'est la conquête, c'est la fantaisie, c'est autre chose, parce qu'on parle bien d'un jeu qui s'appelle le football. Et en même temps, quand vous avez dans votre équipe des Morata, des Griezmann, des Memphis et des Correa, l'autre jour, je disais, dans leur carrière, ils ont marqué déjà plus de 450 buts. Vous vous rendez compte, ces quatre joueurs. En contrepartie, OK, il y a la jeunesse, les blessures, mais sinon, il y a Rodrigo, José Lu, Vinicius et Bellingham qui viennent d'arriver. Encore une fois, une différence d'âge, parce que là, on parle de Morata, des gens qui ont déjà beaucoup plus joué, évidemment. Mais il y a une puissance offensive. Et moi, je suis assez réducteur et contre les stats. Mais cette stat-là, il m'a alerté parce que je conçois qu'El Cholo, un jour, maintenant, en plus, si vous dites qu'il va re-signer, c'est quand même quelqu'un qui ne peut plus fonctionner par la peur. C'est quelqu'un qui a la reconnaissance, la notoriété, l'argent, le pouvoir. Je ne sais plus. Il
Il a
a,
tout.
je crois que, et voilà, il n'y a pas grand-chose qui lui manque. J'aimerais bien qu'un jour il se libère et que El Cholo lui nous dise, je vais essayer de garder cette année-là, ça sera le nôtre. Cette année, on va aller conquérir le match. Au Bernabéu, je ne sais pas, qu'ils nous disent, attendez, je vais attendre la faute. Donc voilà, et l'Atlético a plutôt bien commencé, mais là c'est un match où on le dit, ça va être le référent, parce que battre Granada, Rayo, etc., il faut le dire, ça n'a pas le même
Bien sûr.
impact que là, ça sera pour dimanche, ça c'est sûr.
J'ai une autre question qui me vient. Après, je passe de suite à toi, David. Tu es argentin, tu bois du maté, je bois aussi du maté. Antoine Griezmann boit du maté. Qu'est-ce que tu penses du Principito?
D'abord, j'ai eu la charge, je le connais un peu, je connais un peu sa famille, parce que quand je le connais, je le suis depuis que j'avais été faire un article quand il était à la Real Sociedad, avant qu'il joue contre Lyon, bon, peu importe. Donc, et voilà, lui, c'est un représentant, je crois, d'un football qui à moi, il m'appassionne, parce que
Bien sûr.
c'est un football où lui, malgré des difficultés, malgré un peu le côté et stéréotypé du football, il a été obligé de quitter, d'aller jouer pour montrer des qualités, parce que ses qualités athlétiques n'étaient pas les prioritaires. Et il a donc gagné un paquet de reconnaissances de la part de plein de journalistes, des ex-joueurs, des joueurs, etc., de par cette persévérance à travers une technique, une manière de jouer un football beau, joli, avec une touchée. Et puis aussi, en étant, il faut se le dire, Griezmann, c'est un joueur, c'est pour moi, c'est un optimiste du but. Et je crois que dans sa carrière parle pour lui, du point de vue à la relation qu'il a avec la cage et avec le filet adverse.
Tout à fait, tout à fait. Ben, l'un des joueurs les plus, si ce n'est le joueur le plus décisif de Liga d'ailleurs, la saison dernière. David, bon, ça y est, là, la voix est échauffée. Tu nous as entendu un peu parler d'Atlético. Tu dois mourir d'envie là, de nous parler un peu de ton Real Madrid. Justement, ben, le Real Madrid, début de saison, 5 matchs de Liga, 5 victoires, c'est carré. Pareil, match de Ligue des Champions, dans les dernières secondes, certes, mais les 3 points sont là. Comment ça se passe ce début de saison? On avait beaucoup de doutes parce que Benzema n'a pas été remplacé, Mbappé n'est pas arrivé, il y a eu beaucoup de blessures aussi, mais voilà, les chiffres sont là, c'est implacable. Comment toi, est-ce que tu vis ce début de saison du Real Madrid?
Alors, au niveau des chiffres, effectivement, bah, on peut être que satisfait, c'est 100% positif, que des victoires, donc que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. C'est vrai qu'on avait quelques doutes hein, quand même. Ensuite, sans l'arrivée d'un vrai neuf, mis à part Joselu, et donc Mbappé qui n'est pas venu, la blessure du gardien, la blessure de Vinicius et compagnie, on avait quelques doutes. Mais par rapport à ça, justement, on était agréablement surpris parce qu'on a retrouvé un bloc équipe vraiment impressionnant. Et une envie de jouer de cette jeune génération, puisqu'on oublie souvent de dire qu'il y a Kroos et Modric qui sont les vieux grognards, comme j'aime bien les appeler, qui ont un talent indéniable, mais tout autour d'eux, c'est des jeunes qui ont entre 22, 25 ans, 26 ans, et qui ont peu gagné avec le Real encore, et qui ont très envie justement d'aller au-delà. Et si on parle de Joselu, qui a un certain âge, mais qui est un joueur de la Cantera, donc formé au Real de Madrid, justement, il a très très envie. Dès qu'il marque un but, il embrasse l'écusson et l'escudo. Ça veut dire beaucoup aussi pour nous. Ça veut dire qu'il y a une réelle envie. Je pense qu'on a retrouvé plus un bloc équipe que des individualités comme il pouvait y avoir les années précédentes, on va dire. Donc, plutôt très satisfait. On a envie de récupérer un peu nos blessés et de produire un jeu un petit peu plus attractif. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'à Madrid, même si on gagne que 1-0 dans les arrêts de jeu, on est à moyennement satisfait. On aime bien quand même quand il y a du jeu. Et en l'occurrence, la deuxième mi-temps de Ligue des Champions, on a produit du très bon jeu. Ils avaient du mal à passer le milieu de terrain. Bon, c'est que l'Union Berlin, d'accord, mais malgré ça, je pense qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps en tout cas, et qu'on a produit du jeu, qu'on est arrivé au but. Alors certes, on a raté quelques occasions, en particulier Joselu, mais voilà, on veut continuer dans ce sens-là et continuer à jouer de mieux en mieux. Et à continuer avec ce bloc équipe et cette envie. Bellingham, il a envie de prouver, il vient d'arriver. Les jeunes qui étaient du Real de Madrid ont envie de prouver. Les jeunes qui sont en place, comme Camavinga ou Tchouaméni, sont en forme et ont envie aussi. Donc, non, on vit des bons moments, sans oublier le gardien, parce que Kepa, pour l'instant, il n'a pas fait des énormes bourdes ou des énormes matchs, mais il est présent, il est là. Et je pense qu'il a aussi envie de prouver. Donc, plutôt que des côtés positifs, mis à part les blessures, comme je le disais, lorsqu'ils vont revenir, il y aura de la concurrence à tous les niveaux. Seul petit hic, si je peux me permettre, c'est le peu d'apportation de Brahim encore, de Brahim Diaz, qui moi me ravit, que je l'ai vu jouer à Milan et c'était titulaire, c'était vraiment pas mal. Là, il a peu de minutes encore. Bon, peut-être qu'il faut se mettre dans le rythme, peut-être qu'avoir un petit peu plus d'opportunités. Mais voilà, c'est le seul petit bémol que je trouverais à ce début de saison du Real.
Ouais, tout à fait, tout à fait. On en parlait. Ben, c'est vrai que Joselu, il arrive à se créer des occasions, beaucoup d'ailleurs. Peut-être qu'il y a aussi cette adaptation. Voilà, le poids du maillot avec l'Espagnol, il était un peu le sauveur. Il en avait deux, trois par match. Il arrivait à être clinique. Là, il en a beaucoup plus. C'est peut-être un problème d'adaptation. Et puis Kepa, qui a été excellent hein, en première mi-temps face à la Real Sociedad, qui a évité le but du break, qui aurait peut-être été synonyme de premier accroc cette saison. Toi, Omar, justement, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison du Real Madrid? Voilà, on t'a posé la question pour l'Atlético. Comment est-ce que tu les vois en ce début de saison, même si tu as un peu répondu dans ta première intervention?
Et moi, j'ai plusieurs bémols parce que la théorie, vous savez, dans le foot, il y a beaucoup plus de théories au préalable. Or, on dit tout le temps que les grandes équipes, les grosses écuries, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un avant-centre avec une étiquette, avec un cartel, ou la pancarte des buteurs absolus. Quand tu vois City, Haaland, Kane, Lewandowski, je sais pas, Lukaku, Lautaro Martinez, Morata, j'en passe. Or, pour la première fois, même dans l'histoire, je ne vais pas aller très loin, mais le Real Madrid, il va partir sans, parce que les premiers matchs, tant que Vinicius n'avait pas été blessé, il jouait sans avant-centre avec le cartel. Il a fait Rodrigo Vinicius et derrière Bellingham, il est trois milieux. Donc, moi, ce que je ouvre le débat de dire, est-ce que ce n'est pas un défi, c'est pas peut-être qu'il y a déjà une stratégie, hein, bah, pareil, réfléchis qu'en janvier, ils feront venir quelqu'un, ça, je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est assez étonnant qu'une équipe comme le Real Madrid, qui évidemment sont obligés d'avoir des aspirations très, très, presque illimitées, ils se retrouvent dans cette situation. Néanmoins, bon, après, ils gagnent tous les matchs, ils le gagnent d'une manière. pas assez très. Parce qu'ils avaient gagné, je ne sais pas contre qui, 2-1. Et pareil,
Contre le
ils ont
Getafe
vendu
et contre.
Almeria, ils ont battu Almeria, ils ont battu Bilbao. La Real Sociedad aussi à la fin. Oui, Real Sociedad à la fin. Bon, disons que
Attention
ça
au
a
réfé.
été. Non, oui, mais ils ont battu. Le chef, il pourra dire,
Non,
le chef, il
non,
pourra
non, mais c'est la
dire.
vérité,
Moi, je...
c'est la vérité.
Non. Non, mais je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas, c'est un argument qu'on peut entendre. Ce n'est pas parce que c'est le mien, c'est parce que j'ouvre le débat. J'ai
Ouais,
zéro
bien sûr, non,
certitude,
non.
hein, vous savez. Le Barça, il a
C'est une
tout.
petite blague entre nous qu'on se fait
Ah, je
souvent.
sais
On
bien, mais
s'échange beaucoup
heureusement.
plus.
Mais
Ouais,
heureusement.
on en profite pour saluer un ami qui s'occupe bien évidemment de la page avec nous, Govan, qui lui aussi est de la Real Sociedad. Alors tu peux imaginer un peu que des fois c'est taquin sur la
Et il faut que ça soit comme ça.
page. Ouais. Exactement. Du coup, je repasse avec toi, Réfé. Ben, on a un peu évoqué quand même. L'Atlético, ça a souvent du mal dans les matchs difficiles, dans les grosses affiches ces dernières saisons. Comment est-ce que toi tu l'expliques?
Je pense que par rapport à ce que, enfin, je pense que toi, il y a une partie d'explication qui peut venir de ce que Omar évoquait tout à l'heure et que moi j'avais préparé aussi de mon côté, c'est que c'est dans le discours en fait. Je pense parfois dans l'attitude, le fait que l'Atlético est parfois cette, on va dire cette façon, alors pas de se rabaisser forcément, mais de se mettre comme troisième club d'Espagne et volontairement, c'est-à-dire que le Real Madrid et le Barça historiquement effectivement un palmarès. Nora qui est certes plus impressionnante que celle de l'Atlético, mais aujourd'hui l'Atlético, Omar le disait très bien, et c'est aussi ce que beaucoup de supporters disent d'ailleurs, a une capacité quand même pour rivaliser avec ces clubs-là sur beaucoup de points quand même. Et je pense que moi, ça vient beaucoup de l'approche des matchs, du discours qui est fait par le Cholet et même parfois aussi par certains joueurs, mine de rien. Je pense comment dire, peut parfois avoir tendance à se reléguer un peu au second plan derrière le Barça et l'Atlético, et je crois que c'est ce qui explique que beaucoup de matchs aient été parfois mal négociés. Moi, j'avais noté quand même que la dernière victoire contre le Real Madrid à domicile, et qui est d'ailleurs la dernière victoire tout court, c'était cette victoire du coup contre c'était en l'année dernière, enfin l'année dernière du coup en 2022. Mais il y a eu aussi avant ça l'autre victoire à laquelle je voulais faire référence, c'est celle de mai 2017, la fameuse demi-finale retour de Ligue des Champions. Mais voilà, dans cette période-là de 2017 jusqu'à 2022, il n'y a eu que ce succès en 2022, donc. Et je pense que voilà, ça dit beaucoup aussi du fait que parfois Atlético a du mal à attaquer ses matchs et à les aborder comme il faut. Et c'est ce qui, je pense, parfois peut poser souci aussi et qui explique que Atlético ait autant de mal, surtout face au gros, avec la pression qu'il peut y avoir aussi parfois au Wanda Metropolitano à domicile.
Ouais, tout à fait, tout à fait. David, juste avant de rebasculer avec toi, on va poser une question à Omar. Une question plus sur le terrain, voilà, qui nous fait un peu rêver parce qu'on t'écoute tous à la télé, on est là, waouh, ça doit être génial de faire ce qu'il fait, de vivre ce qu'il vit. Toi, avec Benjamin, comment ça se passe en fait quand vous allez pour beIN Sport commenter un tel match? Comment est-ce qu'on vit un tel match quand on est à votre place? Et justement aussi toi, ton avis sur le match qu'on s'apprête à voir dimanche soir à 21h?
D'abord, tu as employé un mot, le rêve. Et je le dis tout le temps, nous sommes, parce qu'il n'y a pas que moi, mais on est des privilégiés parce que nous avons la possibilité de faire quelque chose qu'on risque absolument rien. Hein, parce que pour nous, qui est le match, je ne sais pas, on s'en fiche, on a toujours la possibilité d'être dans de très belles conditions, dans des super stades, dans des super ambiances, etc. Donc, on est vraiment des privilégiés et je le dis à chaque fois que je remercie parce qu'en étant assez vieux, je continue à faire quelque chose qui me plaît énormément. Et
Vous
qu'ensuite,
transpirez beaucoup d'énergie.
c'est ça, c'est que malgré, moi ça va faire, j'en ai déjà fait, l'autre jour, je crois que j'en ai déjà fait 10 Coupes du Monde, j'en ai déjà pas mal voyagé, parce que je suis vieux, pas parce que vous savez, quand vous allez avoir mon âge, vous allez voir évidemment beaucoup plus de choses vécues. Donc et là, je fais qu'on part, on dit ça, expérience, moi je ne dis pas ça, c'est le fait d'avoir vécu plus longtemps. Néanmoins, et pour vous dire que je suis encore dans cette perspective, moi je vais au stade, on se prépare, là je regarde des fiches, je sais pas, je vais aller dans un bar demain à Madrid, que je vais souvent, parce qu'il y a des supporters de l'Atlético, il y a des supporters de voilà, j'aime bien, je connais un restaurant où ils mettent le match, j'irai voir le match de Barcelone là-bas, etc. Parce que ici en Espagne, parce que je suis actuellement en Espagne, et on vit différemment le côté
Tout à fait.
expression, toi, le match, on le vit avant, pendant et après, d'une
Tout à fait.
manière beaucoup plus, je sais pas, exubérante peut-être, un peu qui, bon, malheureusement, moi, je me sens, je viens d'une culture où il vaut mieux s'embrasser, crier, danser, chanter. Bon, après, il y en a qui, heureusement, hein, qu'on n'est pas tous pareils. Donc, et en même temps, voilà, je continue à le dire, chaque fois qu'il y a un grand match, même le petit, parce que des fois, il y a des matchs moins importants, mais que, de par le spectacle, la qualité, quelques joueurs, le scénario, ça nous fait encore une fois mettre une espèce d'adrénaline. Et c'est ce que je continue à ressentir. C'est même pas moi qui crée ça. Moi, encore, le foot, le match, l'ambiance, ce qui sort, ça descend des tribunes. Et continue à me générer, à me produire cette adrénaline, énergie, effervescence, je sais pas comment vous voulez. Donc pour moi, il n'y a pas de. Je ne surjoue rien du tout. Moi, je le vis parce que ça me plaît, parce que c'est mon milieu, et parce qu'il y a encore une fois une chance inouïe de pouvoir continuer et le faire, surtout à mon âge.
Ouais, c'est ce à quoi on aspire. Tu parlais de heureusement qu'on n'est pas tous qu'on est tous différents. Et je te rejoins. Ça nous aide à apprécier l'extraordinaire. Et c'est vrai que la culture argentine, c'est voilà, moi l'Argentine, c'est un pays qui est cher à mon cœur, qui a changé ma vie. Et c'est vrai que ben, voir le football avec des Argentins, grâce à des Argentins, avec des Argentins, c'est toujours un immense plaisir. Juste deux, trois petites minutes encore, Omar, mais. Toi, justement, comment est-ce que tu vois cette rencontre? Comment t'imagines le match que tu vas commenter en fonction de tout ce qu'on a dit?
Bon, je ne mets pas beaucoup de choses a priori. J'aimerais bien, je voudrais encore une fois que le match soit un peu coup contre coup, que le match soit. Parce que des fois, on se dit. Et qu'un match, il ne transmet pas autre chose. Et c'est pas vrai. Vous savez, ce match-là, il sera vu en Argentine, au Mexique, aux États-Unis, en Asie. Et ça donne un exemple. C'est significatif le fait de, que si le match, il est enfermé, des fois, tout de suite, on va, disons, à juger ou à remarquer le fait de la négativité. Donc, la seule chose à laquelle j'inspire et ce que je souhaite, c'est que l'Atlético, il se lâche surtout. Qu'est-ce qui fait jouer cinq défenseurs, les arrières latéraux, ils fassent que ce soit des vrais contre-attaquants. Je ne sais pas s'il fera jouer deux ou trois attaquants. Donc, ils vont. Et après, le Real Madrid, je ne sais pas, il y en a que j'ai entendu tout à l'heure, disait que Vinicius pourrait être remplaçant. Je ne sais pas si c'est vrai
Ouais.
ou pas. Et donc, ça sera une très belle chose parce qu'évidemment, moi, je suis pour. Encore une fois, la fantaisie, la magie,
Sportif.
l'expectative de la créativité.
Voilà. Un peu de tereré à côté du maté. Bon, on sait jamais. Ça
C'est ça, exactement
ça
ça.
fait toujours plaisir. En tout cas, on t'occupe pas plus. Un immense, immense merci
Merci Omar.
d'être venu dans nos podcasts,
Merci beaucoup
Omar.
Omar.
Un très,
Non, mais
très grand
merci à vous.
plaisir.
Il y a plus, non, mais je tiens à vous dire, parce que dimanche soir, je lance un petit jeu qui s'appelle Dada Game,
Exactement.
dans lequel à l'intérieur du match, je vais donner déjà en avant et pendant, un peu comme ils font. Je vais donner des indices, des mots, etc. Il y en a plein de lots. Des lots, on a des maillots, des ballons, etc. Donc, on va donner plusieurs lots à gagner. Et on va essayer de faire une espèce d'inter-activité avec les supporters du match. Et donc, je compte pour que beaucoup des gens, des peignes, essayent de découvrir les pistes qu'on donnera pour deviner et pour gagner surtout des lots. Donc merci à vous et on se croise dès qu'on pourra.
On se croise dès qu'on peut, peut-être pour le classico, organiser quelque chose. Mais en tout cas, Ligue Actu sera au rendez-vous de ton jeu. On va partager tout ça et inciter aussi nos suiveurs à participer à cette super
Bien
initiative.
sûr.
Merci à toi, Omar. C'est un
Merci
immense
beaucoup Omar.
plaisir, encore une fois, de t'avoir
Merci.
élevé.
Je vous remercie à vous, vraiment. Merci
Un
beaucoup. Vous
très
avez
grand
été très
plaisir, Omar.
sympa.
Merci beaucoup.
Et du coup, on va continuer un peu ce podcast. On va parler beaucoup de l'Atlético de Madrid, voilà, de cette gêne un peu dans les grands matchs. Bon, les grands matchs avec Ancelotti, c'est souvent de bonne facture, ou du moins ça s'allume en vert au niveau du petit clignotant. Ben, Ancelotti, mine de rien, il est souvent critiqué pour des fois son jeu. On en a parlé. C'est vrai que le Real Madrid, bon, les victoires 1-0, des fois ça peut agacer, mais il est souvent mis en difficulté. On lui met la pression. Ça a beaucoup parlé aussi à un moment de Raoul, d'un éventuel remplaçant. Toi, quel est ton avis un peu, David, et un peu l'avis aussi général de la Peña sur Carlo Ancelotti, qui démarre, si je ne me trompe pas, sa cinquième saison sur le banc du Real Madrid?
Alors, désolé, mais pas tout à fait d'accord avec l'opinion qu'on peut avoir de Ancelotti. Nous, au sein de la Peña et au sein des supporters du Real, on est ultra fan d'Ancelotti, de sa gestion du vestiaire, de sa gestion humaine et de sa gestion footballistique. Ça veut dire qu'effectivement, ce n'est pas toujours spectaculaire. Par contre, c'est toujours très sérieux, très concentré. Il laisse toujours un peu d'imaginaire et d'imagination à ses artistes, on va dire, qui puissent s'exprimer, en particulier Vinicius. Il faut rappeler qu'avant qu'Ancelotti vienne, Vinicius n'était pas tout le temps titulaire et ne pouvait pas tout le temps faire ce qu'il voulait sur le terrain. Aujourd'hui, il lui laisse une liberté presque totale et on en voit le résultat. C'est-à-dire qu'il est parmi les meilleurs joueurs du monde. Il faut être honnête là-dessus. Parfois avec trop de frasques, parfois avec un petit peu trop de provocation, certes. C'est la jeunesse, à mon avis, qui veut ça. Mais aujourd'hui, au niveau talent footballistique, on peut pas lui reprocher grand-chose. Et nous, en revenant sur Ancelotti, la question, pour nous, la gestion qu'il a du vestiaire, de gestion humaine, la gestion des remplaçants et la gestion même de ses anciens clubs, parce que si on regarde bien tous les clubs où est passé Ancelotti, dès qu'on parle d'Ancelotti à des joueurs, même lorsqu'ils étaient remplaçants, ils disent toujours du bien de cet homme-là, de cet homme en tant que plus qu'entraîneur de manager, on va dire, le manager du club. Et c'est vrai que nous, on n'a pas grand-chose à lui reprocher, peut-être parfois un manque d'initiative ou de faire le remplacement un peu tard comme il le faisait la saison passée. Mais cette année, il est en train de nous surprendre. Il fait des changements à la 60e, à la 55e, à la 65e. Ce n'était pas du fait d'Ancelotti. Donc, à mon avis, il écoute aussi les critiques parce que c'est un sabio, comme on dit dans notre langue, c'est-à-dire c'est un sage. Il sait aussi écouter. Et voilà, donc il sait aussi un peu changer son fusil d'épaule lorsqu'il le faut. Il a la jeunesse à côté de son fils. Qui, mine de rien, gère beaucoup de choses autour de lui et qui justement lui donne un peu cet apport de jeunesse et de folie.
D'ailleurs, si je peux préciser quelque chose, c'était, je regardais le match face à la Real Sociedad, je ne sais pas si tu es d'accord, mais au moment où Joselu marque, il y a un gros plan sur David et Ancelotti avec Carlo, et David semble dire à Carlo, tu vois, je t'avais dit, il fallait le laisser, il fallait le laisser, et après il sort. Et donc c'est vrai qu'on voit cette complémentarité.
Tout à fait, j'ai vu la même scène, je suis complètement d'accord avec toi, où effectivement, bah, en tant que père et fils, bah, à mon avis, ils ont un lien, ils savent se dire
Oui.
oui ou merde lorsqu'il faut le dire, et donc c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jalousie entre eux, et je pense que le papa est en train de former le fils, et voilà, et après, lorsqu'on l'écoute en conférence de presse, il n'a jamais un mot de travers vis-à-vis d'un adversaire, vis-à-vis d'un arbitre, vis-à-vis de un aficionado, de qui que ce soit. C'est un monsieur pour moi. Et s'il part en fin de saison, comme apparemment ça risque d'arriver, ça sera un grand manque pour nous. On est passé d'un monsieur qui était Zidane à un monsieur qui était Ancelotti. Donc voilà, Zidane, il était aussi critiqué, mais c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Lorsque l'entraîneur du Real, il faut qu'on soit critiqué, sinon on ne peut pas être entraîneur du Real. Voilà. Mais nous, on est vraiment extrêmement satisfait d'Ancelotti. Et lorsqu'on compare à d'autres entraîneurs dans d'autres clubs, je n'ai pas envie de citer de noms, mais. Que ce soit l'adversaire, notre prochain adversaire ou d'autres entraîneurs qui font des frasques à tout va. Et voilà, c'est pas le style de la Casablanca, c'est pas notre style à nous. On est posé, on est serein. Et même si on fait des mauvais matchs, il autocritique aussi. Hein, il s'autocritique lui-même. C'est intéressant quand même. Hein, lorsqu'il se trompe sur un changement, lorsqu'il se trompe sur une compo, il le dit en conférence de presse. Je connais pas beaucoup d'entraîneurs qui ont cette aura et cette façon de parler justement aux journalistes. Qui est un métier compliqué, comme on peut le savoir, et il le gère vraiment très bien, quoi.
Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que c'est, comme tu l'as dit, avec son expérience, il peut se permettre beaucoup plus de choses, d'avoir beaucoup plus de recul, d'être détaché. Au final, des journalistes, il en a vu plein. Il a vu une régénération aussi, quelque part, parce que bon, ben voilà, la vieille garde est partie. Maintenant, il y a un nouveau monde, mais lui, il est toujours là. Et c'est vrai qu'il a peut-être cette force aussi de tant d'années de professionnalisme en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Il a traversé les époques, les styles. Et c'est vrai que c'est un entraîneur qui en impose par son charisme. Juste avant de passer sur les absents et les retours pour ce match et vraiment rentrer dans le vif du sujet. J'ai une petite question en t'écoutant, quelque chose m'est venu, mais c'est vrai, tu dis le Real Madrid, c'est un club à part, tout ça, et on a l'impression quand même que pour coacher cette équipe, il ne faut pas être un entraîneur comme tous les autres entraîneurs qui ont des préceptes tactiques très avancés, ou du moins qui les mettent énormément en avant. On a vraiment l'impression qu'il faut un entraîneur qui soit capable d'être un parfait politicien, de savoir gérer à 100% ce vestiaire. Est-ce que toi aussi tu partages un peu ça? Est-ce qu'il faut une qualité vraiment différente à mettre en avant que par exemple dans d'autres grands clubs européens, par exemple au Bayern Munich, à Manchester City, au Barça, voilà, où on parle beaucoup de jeu? Non, à Madrid, c'est plus être capable d'unifier le vestiaire pour sortir ben, le meilleur au final.
Oui, je suis un peu d'accord avec toi. Il faut savoir gérer les égos qu'il y a dans ce vestiaire et les stars qu'il y a dans ce vestiaire. On peut se rappeler de Raúl, on peut se rappeler de Ramos, on peut se rappeler de Cristiano,
Aujourd'hui, d'un
etc.
Modric.
Voilà, tout à fait. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entraîneur du Real, pour moi, c'est plus un style manager à l'anglaise, c'est-à-dire qui gère un vestiaire et qui gère un peu les personnalités de chacun, plutôt qu'un entraîneur en tant que tel. Pour moi, l'entraîneur, c'est plutôt David, c'est-à-dire le fils. Que Carlo. Carlo, il est plus pour moi manager et gestion des égos et gestion des humains et gestion des stars qu'il y a dans ce vestiaire-là. Comment un Modric n'est pas parti voir les sirènes d'Arabie Saoudite ou autre en gagnant beaucoup plus? Pourquoi il est resté au Real? Pourquoi Kroos est resté? Pourquoi? Il y a tout ce genre de questions. Je pense qu'il fait part, Carlo Ancelotti, un petit peu de tout ça, de dire tu es à la maison, reste encore une année ou deux à la maison parce que tu es chez toi. T'es bien, je vais te dosifier, on va dire, si on peut utiliser le terme, au niveau du temps de jeu. Et je pense qu'il est très communicatif et communicant avec ses joueurs. Et ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas quelqu'un de dur en tant que tel. Bien que, lorsqu'on analyse les cas de Hazard, par exemple, l'année dernière, qui a pratiquement pas joué, parce qu'il s'entraînait mal ou parce qu'il n'avait pas le niveau, peu importe, voilà, il sait aussi mettre du pain sur la table.
Trop
Et moi,
dur.
voilà, c'est dur et je sais qu'il a eu une conversation plusieurs fois avec notre ami belge en lui disant, non, tu n'as pas le niveau et aujourd'hui, tu es mon troisième ou quatrième choix. Et point. Et donc c'est vrai, mais par contre, il communique, il dit les choses. Et je pense que dans un vestiaire comme le Real, qui est ultra médiatisé, ne serait-ce que le moindre fait des gestes, comme d'autres clubs, hein, tu me diras, mais c'est vrai qu'autour du Real, il y a toujours une passion extrême. L'entraîneur en tant que tel a besoin d'être manager et de savoir manager ses équipes. Alors ses équipes, ses joueurs, mais aussi le staff, parce qu'aujourd'hui, le président du Real, on n'entend pas. Raoul, qui est le directeur sportif, pardon, pas Raoul, Boutragueño, qui est le directeur sportif, on n'entend pas. Et donc aujourd'hui, tout est plat, tout est nickel, et voilà, et tout se passe bien. Donc moi, j'ai plutôt peur de l'après Carlo, qu'est-ce qui va nous arriver, quoi. Donc,
Ouais,
Pardon.
dans son management, ben, tu parlais de management à l'anglaise, et c'est vrai qu'au final, ça m'est venu ben, pareil en t'écoutant. Carlo Ancelotti, Modric, on pourrait le comparer quelque part hein, à un Sir Alex Ferguson avec Ryan Giggs lors de la fin de sa carrière. Moi, ça m'y fait écho, en tout cas, avec un joueur ben, qui a presque 40 ans, tout gagné, et un entraîneur un peu de ce style-là, qui gère un peu tout, mais qui délègue pour la partie vraiment terrain et football, mais qui justement unit son vestiaire et est le véritable patron au final de cette équipe. Je pense qu'on a fait le tour un peu sur cette question. Parlons quand même, ça y est, de cet immense choc. Ruben, du côté de l'Atlético, quelles sont les forces en présence? Des absents, des retours?
Pas mal d'absents, pas mal d'absents, une infirmerie comme qui est bien remplie. Bon, il y a eu évidemment la blessure de Thomas Lemar il y a quelques jours au niveau du tendon d'Achille, qui bon va le maintenir à l'écart des terrains pour un petit moment quand même. Il y a aussi Pablo Barrios qui s'est blessé récemment, et puis là c'est des absents de plus longue date avec Rodrigo De Paul. Il y a Soyuncu aussi qui sera pas là, Reinildo et puis Vitolo qui seront également absents. Donc une infirmerie quand même assez remplie. En revanche, le retour quand même de Memphis qui était absent depuis voilà depuis un moment je crois, et qui va revenir pour ce derby normalement qui sera disponible.
Ok. Donc bon, pas mal de remue-ménage du côté de l'Atleti, une actualité dense au niveau de l'infirmerie. Du côté du Real Madrid, David, on en parlait aussi. Ben, la saison a mal commencé avec des grosses blessures. Qu'est-ce qui se passe pour la convocation de Carlo Ancelotti? Qui sera là?
Alors, on parle de rumeurs de Vinicius peut-être sur le banc de touche. C'est une rumeur pour l'instant, je ne sais pas si elle est fondée ou pas. Moi, j'y crois pas trop et je ne forcerai pas. Après, c'est mon avis plus personnel. Il y a aussi la problématique Carvajal quand même à droite. qui n'a pas joué le dernier match de Ligue des Champions, pas par temps 9 heures, mais plutôt parce qu'il avait une gêne. Je pense que Carvajal fait un début de saison énorme. Il est capitaine sur le terrain et il apporte énormément. Lucas Vasquez fait son travail, il fait aussi ce qu'il peut et c'est un battant. Mais aujourd'hui, Carvajal fait un début de saison pour moi énorme. Et je pense qu'on a vraiment besoin sur ce côté droit pour libérer un petit peu plus Rodrigo, c'est-à-dire que vraiment Rodrigo puisse plus rentrer un petit peu plus dans l'axe et être plus près des buts. Donc voilà. Et après Vinicius, moi, sur un match comme celui-là, qui va être de toute façon tendu et compliqué, parce que l'Atlético Madrid a l'habitude de jouer dur ce type de match, on va pas se mentir. Le Real donne du répondant aussi. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le match idéal pour Vinicius pour rentrer en cours de jeu et pour pouvoir démontrer son talent. Donc au-delà de ça, bah, après les blessures historiques de Militao et de Courtois, mais c'est pas pour tout de suite. Donc au-delà de ça, le turnover de Ancelotti est intéressant aussi parce que là en Ligue des Champions, il a pas mal fait tourner en faisant jouer d'autres joueurs qui jouent un petit peu moins. Donc c'est intéressant de comprendre que voilà, on joue tous les 3 jours parce qu'on a quand même joué mercredi, on rejoue là 3 jours après. Donc voilà, le turnover est important et je pense que justement on a un effectif plus complet que l'année dernière dans le sens où on a plus de joueurs susceptibles de pouvoir jouer et de ne pas altérer, on va dire, le niveau global de l'équipe.
D'accord, c'est un avis en tout cas très intéressant. Et puis, alors ça me permet de faire un petit bonjour aux amis de Los Madridistas, à Engie, parce que j'ai parlé du gaffé quand même, hein, parce que bon, c'est malheureux pour notre ami Carvajal, mais il a donné une interview dans une émission qui est une référence en Espagne, c'est l'Universo Valdano, sur la Movistar. Il expliquait que le gluten, de manger du coup sans gluten, l'aidait au niveau des blessures, parce que c'était un joueur qui était souvent blessé, ça réduisait ses inflammations et le pauvre, 3 jours après, il a une petite blessure musculaire, il en a pour 10 jours. Donc bon, c'est la tradition des podcasts Ligue Actu. On est tous un peu gaffés sur les podcasts. Donc voilà, je pense que ça fera sourire Angie quand elle m'entendra dire ça. Je vais revenir avec toi, du coup, Ruben, sur cette rencontre avant le point gaffé, justement, le point des pronostics. Toi, comment tu la vois? Voilà, on a parlé de pas mal de choses concernant l'Atleti. Comment est-ce que tu vois ce choc au Civitas Metropolitano?
C'est un choc bon, qui avant tout va être, j'ai envie de dire, c'est une porte ouverte vers ça, mais qui va évidemment être décisif. Mais moi qui j'ai quelques craintes quand même pour Atlético, m'a en parlé. Enfin, c'est aussi l'avis un peu globé, mais on a l'impression que cette équipe-là, effectivement, c'est pas l'équipe des premiers matchs du début de saison. C'est pas l'équipe qui a mis 7-0 au Rayo. Alors en face, certes, Omar l'a précisé, c'était le Rayo, même si effectivement ils font un bon début de saison. Mais je pense que c'est une équipe qui a quand même, voilà, pas forcément perdu le fil, mais qui a baissé en régime. Et effectivement, sur les dernières rencontres, encore celle de cette semaine en Ligue des Champions, on voit comme une équipe qui est, à mon sens, moins impressionnante qu'il y a quelques semaines. Et j'ai peur que cette baisse de régime, cette diminution un peu du niveau qu'on a pu voir, soit malheureusement quelque chose qui fasse accuser le coup aux hommes de Simeone, parce que en face, on l'a dit, le Real Madrid, sans forcément toujours être brillant de la première à la 90e minute, a quand même, avec Ancelotti du coup, bien géré ses matchs, a quand même voilà, aussi une certaine capacité à remonter les matchs. On l'a vu encore la semaine dernière face à la Real Sociedad. Donc moi j'ai du mal à voir honnêtement comment cette équipe de Atlético pourrait essayer de faire la différence. Après, effectivement, rien n'était écarté, mais on parlait juste avant aussi du fait que Atlético est une équipe qui avait beaucoup de mal à domicile dans ce genre de match. C'est, je pense, une caractéristique qui est à prendre en compte. Donc voilà, l'Atlético a ses armes. Moi, je pense qu'un joueur comme Griezmann, effectivement, et qu'on cite souvent, mais c'est totalement justifié, est un joueur qui peut faire la différence et qui sera probablement le joueur à suivre côté Atlético. Maintenant, c'est vrai que voilà, la réalité aussi du collectif, c'est que l'Atlético n'est pas l'équipe des premiers matchs de la saison. C'est l'équipe qui, je pense, se battrait et fera une performance intéressante ce dimanche. Mais effectivement, face à un Real Madrid, comme qui est sur 6 victoires en 6 matchs officiels cette saison, qui voilà, on a l'impression que quelle que soit la situation, ils arrivent à s'en sortir et à prendre ses points, parce que c'est aussi quelque part leur ADN. C'est vrai que c'est quand même un adversaire de taille, et moi j'ai quelques craintes concernant l'Atlético. Maintenant, ça n'empêche que tout dépendra, en tout cas, je pense, de l'approche du coaching de Simeone particulièrement, et puis aussi voilà du niveau des individualités, en particulier du niveau de Griezmann, qui, comme on l'a évoqué dans ce numéro, dans tant d'autres, est un joueur tellement différentiel pour Atlético.
Ouais, tout à
Ouais,
fait. Bah, Griezmann qui avait.
Si je peux me permettre, excuse-moi de te couper, par rapport à Atlético, je n'aime pas parler des adversaires, mais c'est vrai que Griezmann, pour moi, il est extrêmement important à ce club-là. Surtout qu'il
Sûr.
s'est extrêmement bien joué entre les lignes. Et c'est très gênant pour nous, par rapport au bloc équipe qu'a le Real Madrid. Parce que Griezmann joue entre les lignes, c'est là où ils arrivent à le trouver, ils arrivent à le toucher. Et à mon avis, c'est le gros danger que l'on peut avoir face à Atlético. En contrepartie, l'absence de Rodrigo de Paul, qui pour moi, au milieu de terrain, était le métronome, celui qui cassait tout le jeu. Pour nous, malheureusement pour l'Atlético, mais pour nous, c'est un manque intéressant parce que voilà, c'est quelqu'un au milieu qui fait beaucoup de bruit. Après, moi, le petit défaut que je trouve aussi à l'Atlético, le petit point faible, pardon, c'est leur défense centrale qui me semble un peu vieillotte et un peu lourde, on va dire. Donc,
Surtout sur le dernier match, ouais, on l'a vu.
ouais, complètement. Donc,
Ouais,
non, non.
carrément, bah,
Après.
ils ont pris une petite danse au Mestalla, voilà, face à une équipe qu'on a aussi du mal à jauger un peu ce Valencia de Baraja. Voilà, c'est une équipe qui est capable de faire des gros matchs quand on n'entend pas et quand elle est attendue de se prendre les pieds dans le tapis. Mais avant de te repasser la parole sur le Real Madrid, David, c'est vrai que tu disais quelque chose de très juste, très fait. Ben, Antoine Griezmann, c'est un peu le détonateur de cette équipe. Voilà, on avait un Atleti la saison dernière qui pendant 6 mois ne mettait pas un pied
Ouais.
devant l'autre, et on avait même peur qu'il n'aille pas en Ligue des Champions, que ce soit vraiment la saison de la catastrophe. Et un Antoine Griezmann métamorphosé après la Coupe du Monde est arrivé et a complètement changé cette équipe. Voilà, il y avait du jeu, c'était une équipe qui était capable de remporter presque tous ses matchs. C'était assez impressionnant, hein, de le voir. Moi, personnellement, j'avais eu l'occasion de le voir au Camp Nou l'année dernière lors du match Barça-Atlético, et sur la pelouse, c'est vrai que c'était, même malgré la défaite de l'Atleti, à mon sens, le meilleur joueur clairement sur le terrain. Donc non, c'est vraiment un joueur qui, sur ce genre de grand match, est très attendu, parce que un bon Antoine Griezmann, ça fait toute la différence pour l'Atleti. David, voilà, c'était très juste aussi ce que tu nous as dit, et c'est aussi très intéressant d'avoir, ben, de ton point de vue de supporter du Real Madrid par rapport au rival. Mais concernant le Real Madrid, toi, sur ce match-là, comment est-ce que tu vois, ben, l'équipe que tu supportes?
Bah, moi, je les vois moralement en forme, physiquement aussi. Je vois que des côtés positifs. Le petit côté négatif, c'est effectivement la Celta devant le but, c'est-à-dire ce manque de réalisme devant le but
Ouais.
qui nous a manqué un petit peu quand même sur le dernier match de Ligue des Champions et même contre la Sociedad, parce que c'était un gros match de la part des deux équipes, il faut être honnête, mais on a manqué quand même un petit peu de volonté devant le but. Et voilà, c'est un petit peu ce manque-là. Après, on sait à quoi s'attendre à l'Atlético. On est un peu aussi leur bête noire. Donc, il faut aussi jouer au niveau psychologique là-dessus. Je pense que moi, je vois ça du côté vraiment positif. Et le Real Madrid, de toute façon, ne va pas jouer en deçà. Ils savent que c'est un derby madrilène. Ils savent que c'est un match extrêmement important. Et ils vont le jouer à fond, j'en ai aucun doute. Après, voilà, peut-être qu'on tombe, nous, sur une bonne période et l'Atlético sur une moins bonne. Mais ça ne veut pas dire grand-chose sur un match. Hein, donc, mes pronostics et ma volonté, c'est effectivement de pouvoir aller de l'avant et de continuer sur une victoire supplémentaire. Après, voilà, il faut qu'on arrive devant le but à être un petit peu plus réaliste, et je pense que ça devrait le faire, en tout cas.
Ok, ben, un facteur aussi qui sera très très important, c'est vraiment cette ambiance qu'il y a du côté du Civitas Metropolitano. C'est vrai que à chaque match, on avait la chance avec Omar de parler un peu de comment ça se vit un match pareil. Mais sur les réalisations de beIN Sport, même au niveau de Movistar, de la Sonde et tout, quand on voit les gros avant-matchs, on voit qu'il y a quand même une ambiance très très particulière là-bas le soir des gros matchs, qui a une ferveur comme on retrouve très très peu en Espagne. Il y a un caractère dans ces gros matchs au Metropolitano qui est différent de ce qu'on peut trouver au niveau du Bernabéu ou du Camp Nou encore. Il y a une ambiance un peu à la Mestalla, à la Séville, avec vraiment des gens qui sont vraiment à fond. Ça peut aussi avoir son effet, même si, bon, on a vu lors des derniers derbies au Metropolitano que les joueurs du Real Madrid, ils n'avaient pas de mal pour passer outre ce genre de soucis. Petit dernier, ben, point du podcast, la tradition. Voilà, tu nous parlais, David, je vais commencer avec toi, ben, du pronostic que tu aimerais, avec un Real Madrid qui reste sur sa série de victoires et qui bouclerait donc un 7 sur 7. Voilà. Quel est ton pronostic pour cette rencontre?
Alors, mon pronostic de supporter et, à mon avis, réaliste, ça serait un 0-2. C'est-à-dire qu'on gagne là-bas 2-0, un but en première, un but en deuxième mi-temps. Mais après, il y a aussi le facteur ici, là-bas en Espagne, ils parlent beaucoup de cette minute 93, minute 94, qui est un peu la minute noire pour l'Atlético de Madrid. Ce serait rigolo quand même qu'on gagne 1-0 à la 93e ou à la 94e. Avec un but de Bellingham, ce serait assez drôle. Mais voilà, mis à part ce petit côté fantasque, moi je dirais 0-2. Et je m'y tiens, je pense, un but en première, un but en deuxième mi-temps. Voilà, même si l'ambiance va être folle là-bas, c'est vrai, puisqu'il y a une très belle ambiance là-bas, on ne va pas le nier. Enfin, je pense que le Real est assez habitué à ce genre d'ambiance et ses joueurs aussi. Donc, c'est pas ce qui nous fait peur. C'est un petit peu plus la réaction des joueurs et voir comment ils vont être sur le terrain. Donc voilà,
Très bien.
1-0-2.
Allez, 1-0-2 propre. Toi, Réfé, justement, bon, tu n'es pas supporter de l'Atleti, on le redit, mais c'est assez intéressant d'avoir ton avis. Qu'est-ce que tu vois comme résultat pour cette rencontre?
Ouais, bah j'ai pas forcément coutume de beaucoup pronostiquer des défaites pour les équipes alors que je défends enfin on va dire que je
Dans le
défends
podcast.
voilà dans le podcast en tout cas que je présente, mais non, moi honnêtement, comme je le disais avant, je vais pas refaire mon explication, mais j'ai beaucoup de mal à voir cet Atlético faire quelque chose au terme des 90 minutes. Peut-être que je me trompe, et bon, c'est souvent le cas, mais honnêtement, je vois le Real Madrid quand même l'emporter peut-être 2 buts à 1, un match qui sera peut-être serré, en tout cas je l'espère pour le spectacle et puis pour les spectateurs, mais je vois le Real Madrid, voilà, faire un peu comme on a vu en fait le week-end dernier à Anoeta, et comme on a déjà vu les autres semaines, une différence qui se fait en fin de match avec un Atlético qui, voilà, aura montré un visage plutôt intéressant, je pense, mais peut-être pas suffisant pour l'emporter. Donc, victoire 2 buts à 1 du Real Madrid en fin de match. Ouais.
Mais écoutez, je vais vous donner le mien. Je ne suis pas trop sur cette tendance-là. Je crois que l'Atleti a les moyens de remporter cette rencontre. Voilà. Alors ça va, comme je l'ai dit aussi, beaucoup dépendre du niveau d'Antoine Griezmann. C'est sûr que si on n'a pas un Griezmann XXL du côté des Colchoneros, ça risque d'être très compliqué. Mais en ayant vu les derniers matchs du Real Madrid, c'est une équipe qui pousse fort, mais à qui il manque quand même du talent devant. Et s'il n'y a pas vraiment de possibilité d'avoir Vinicius, je pense que c'est une équipe qui peut tomber un peu dans le piège de cette défense des Colchoneros. En tout cas, ce sera très intéressant justement de voir le Real Madrid face à une très très bonne équipe aussi dans cette configuration spéciale de cette année. Est-ce qu'ils sont capables de faire des différences? En tout cas, je pense que l'Atlético, du moins, a les armes pour s'imposer et pourquoi pas une victoire 2 buts à 1 de l'Atlético de Madrid sur cette rencontre. En tout cas, vos analyses ont, je pense, été très très justes aussi et on peut s'attendre à un match qui va dans tous les sens et bien, c'est bien difficile de faire un pronostic pour cette rencontre. En tout cas, je vais vous remercier vraiment pour ce podcast très spécial qui nous fait vraiment bien évidemment très plaisir. Merci à toi, David, d'avoir pris de ton temps pour venir nous parler du Real Madrid et de ta Peña, bien évidemment.
Merci à vous, merci beaucoup pour la surprise, Omar de la Fonseca, c'était vraiment très sympa. Et merci à vous pour ce podcast super sympa et à très bientôt, j'espère.
Exactement, mais il y a un classico, hein, le mois prochain. Donc, à mon avis, on va encore avoir besoin de tes précieux services. Et
Ça
puis,
marche.
merci à toi, bien sûr, Réfé, d'avoir été le comodine de cet épisode en remettant la tunique Colchonera pour cette occasion seulement.
Le maillot reste rouge et blanc. On va dire que sur
Voilà,
ça,
voilà.
je peux m'y retrouver. Mais non, écoute, un très grand plaisir. Merci à David, merci à toi, puis merci à Omar d'être venu nous avoir fait un peu cette petite surprise, parce que c'était aussi une surprise pour nous, mine de rien, c'est un peu fait à la dernière minute, aux dernières minutes. Mais voilà, merci aussi à Bastien, qui effectivement a beaucoup contribué à ce que Omar vienne. Et puis, bah, voilà, merci aussi, comme on dit toujours, à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui nous font, voilà, parfois part de leur ressenti aussi. Puis, on espère que ce podcast aura été, en tout cas, comme les autres, à la hauteur, et que, voilà, il leur a permis de présenter le contexte de ce beau derby, de dimanche soir.
Exactement. Merci à tous. Merci à la Liga encore une fois pour cette opportunité. Et surtout, bon match. Profitez de cette magnifique sixième journée qui s'annonce.